نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue dans le kitab al-Tawhid, qu'on espère finir cette année, inshallah. Donc là on est dans les chapitres qui parlent des... où Mohamed ibn Abdel Wahab il a mis des chapitres, rahimahullah, pour montrer l'incapacité de ce que les gens ils adorent en dehors d'Allah. Donc c'est-à-dire dans ces chapitres il montre, donc il y a différentes façons de prouver le Tawhid. Dans ces chapitres-là, il montre le non-droit des divinités à être adorées. Par exemple, dans le chapitre d'avant, il nous montrait, c'était un chapitre qui parlait des anges, comme quoi les anges, ils avaient peur d'Allah. Quand Allah, il disait son ordre au ciel, les anges, ils tremblaient, ils avaient peur. Donc ça montrait que les anges, ils ne méritent pas l'adoration, puisque eux-mêmes, ils ont peur de quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Alors que l'être que tu dois adorer, il n'est pas censé être faible devant quelqu'un d'autre. Le chapitre d'avant... Le chapitre d'avant, c'était sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous montrait, où Allah lui a révélé « Laïsa laka minal amri shay » et tu ne possèdes rien de l'ordre. Donc si le prophète ne possède rien de l'ordre, donc ceux qui sont en dessous de lui parmi l'aoulia, parmi les alliés d'Allah, encore moins. Et s'il ne possède rien de l'ordre, alors il ne mérite pas que tu les adores, puisque celui que tu adores, tu veux le bien de lui et le mal, ou qui repousse le mal. Et ça, nul ne peut le faire si ce n'est celui qui possède l'ordre. Donc il faut comprendre, c'est-à-dire la réflexion des chapitres de Kitab Tawhid. Donc là il continue dans le même sens en disant Babu Shafa'a, un chapitre qui parle de l'intercession. Donc il va nous montrer que les idoles et tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, ils ne possèdent pas l'intercession. Donc comme ils n'ont pas la capacité, ni le pouvoir, ni rien, non plus ils n'ont pas l'intercession. Et donc encore plus, ils ne méritent pas d'être adorés. Il dit « Wa qawlillahi ta'ala » وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Donc il cite un verset sourate Al-An'am où Allah il dit et averti par lui, c'est-à-dire par le Coran, ceux qui ont peur d'être ressuscités devant leur Seigneur, qu'ils n'ont pas en dehors de lui d'alliés ni d'intercesseurs, c'est-à-dire en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit Cheikh Al-Fawzan munasabatul bab li kitab at-tauhid annahu lamma kana al-mushrikun يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. Il dit, puisque ceux qui adorent les anges ou les prophètes ou les awliya en dehors d'Allah, ils disent, on sait que ce sont des créatures, mais ce sont des créatures qui ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc on veut qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah. أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. Donc le Mohammed ibn Abdel Wahab, il a voulu mettre un chapitre pour montrer que c'est ça, le shirk qui est interdit, c'est exactement cette chose-là, c'est de prendre des intercesseurs entre toi et Allah Azza wa Jal. Donc en parlant du verset, il dit ما يستفاد من الآية الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. C'est-à-dire ce verset réplique aux associateurs qui adorent en dehors d'Allah les prophètes et les hommes saints en leur demandant shafa'a, alors qu'Allah dit dans le Coran que vous n'avez pas d'intercesseur en dehors d'Allah. Donc ça c'est en ce qui concerne le verset. وقوله تعالى, il a mis un deuxième verset. قل لله الشفاعة جميعا. Dit à Allah et l'intercession tout entière. وقولي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et l'autre verset, qui intercède auprès de lui sans sa permission. Donc à propos des deux versets, Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Ma'na al-Ijmali, la signification des versets. يأمر الله نبيه أن يقول للذين يتعلقون على الأولياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة ليس لمن تدعونه من الشفاعة شيء إنما هي كلها ملك لله لا يستطيع أحد شفاعة لأحد إلا بإذنه فلا أحد يملك أن يتكلم يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى له في الكلام. Donc Cheikh dit, ce verset, dedans, Allah il a ordonné au prophète de dire à ceux qui s'accrochent aux hommes pieux, c'est-à-dire aux hommes pieux en les adorant, et qui leur demande al-shafa'a, l'intercession, il dit de leur dire, cela ils ne possèdent rien de l'intercession, mais l'intercession elle appartient à Allah seul. Et personne au jour du jugement, et même avant, ne peut, c'est-à-dire personne ne peut intercéder pour qui que ce soit sans la permission d'Allah Azzawajal. Et même au jour du jugement, personne ne peut parler sans la permission d'Allah Azzawajal. Donc si telle est la situation, pourquoi aller chercher l'intercession auprès de ces gens qui ne la possèdent pas? Et dans le verset, quand vous voyez, il dit « Qul lillahi ash-shafa'atu jami'a ». Il n'a pas dit « ash-shafa'atu lillah ». Le fait qu'ils mettent lillah en premier, ça prouve que c'est seulement lillah. C'est comme si en français je dis « l'intercession est à Allah » et si je dis « à Allah est à l'intercession ». Il y a une différence. Si je dis « alaykum salam ». Si je dis à Allah et l'intercession en arabe, ada yufidul hasr, ça veut dire que c'est seulement à Allah Azza wa Jal. Ensuite, il dit ma yustafadu min al-ayatayn. Donc ça c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est dedans il y a une réplique, ar-rad 'ala al-mushrikin alladhina yatlubuna ash-shafa'ata min al-makhluqin. C'est une réplique aux associateurs qui demandent l'intercession des créatures. وأن الشفاعة من كل الله وحده فيجب طلبها منه وحده. Et que l'intercession appartient seulement à Allah Azza wa Jal, et que donc on ne peut la demander que d'Allah Azza wa Jal.
وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
Dans ce verset il dit et combien il y a d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, ou n'est utile à personne, si ce n'est qu'après qu'Allah l'ait permis, et pour celui qui l'agrée. Donc il a cité deux conditions ici. L'izn, c'est-à-dire la permission, wa yarda, et pour que ce soit pour quelqu'un qui l'agrée. Il agrée l'intercesseur et celui pour qui on intercède. Donc Cheikh va expliquer ça en disant, ma'na al-aya, ijmalan, yukhbiru ta'ala anna kathira min al-mala'ikati, مع مكانتهم عنده لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا. Ici Allah nous informe que beaucoup d'anges, alors qu'ils ont une grande position auprès d'Allah, leur intercession elle sert à, elle ne, pour beaucoup d'entre eux l'intercession elle ne sert pas devant Allah Azza wa Jal et elle ne profite à personne.
ولا تنفعهم إلا إذا أذن الله لهم أن يشفعوا في من يشاء الشفاعة له من عباده.
Si ce n'est, c'est-à-dire, elle ne sera utile qu'après qu'Allah leur permet d'intercéder pour celui qu'Allah veut.
وكان المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره.
Et aussi, donc, après que celui pour qui on intercède soit quelqu'un dont Allah est satisfait. Et cette personne, donc, c'est quelqu'un qui sera salim, c'est-à-dire, il est saint de tout polythéisme. Que ce soit le petit polythéisme ou le grand polythéisme, الشرك, l'associationnisme.
وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى.
Et si ça c'est vrai pour les anges, qui sont les plus nobles des créatures, alors c'est encore plus vrai pour ceux qui sont en dessous, parmi les hommes pieux et que les gens ils adorent et dont ils espèrent l'intercession. Donc à chaque fois quand vous regardez Mohammed Yamdi Abdel Wahab, il nous montre l'exemple le plus haut, parce que ce qui est plus bas, ça sera plus à même d'être. De ne pas mériter l'adoration. Comme quand il nous a mis le verset où Allah dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Laïsa laka min al-amri shay, tu ne possèdes rien de l'ordre. Donc pourquoi il nous met directement un verset qui parle du prophète? C'est parce que si c'est vrai pour le prophète, alors pour les hommes pieux, c'est encore plus vrai. Donc là, c'est pareil pour les anges. Si les anges, qui sont les serviteurs approchés d'Allah, leur intercession elle ne sert que si Allah leur permet d'intercéder pour quelqu'un qu'Allah agrée, alors si c'est vrai pour eux, alors qu'en est-il des hommes pieux qui sont enterrés dans les tombes? C'est encore plus vrai pour eux. Donc ils méritent encore moins. C'est-à-dire, ça montre la nullité d'adorer les anges et les hommes pieux, mais les hommes pieux sont encore pires.
Donc il dit ma yustafad min al-aya. Donc ce qu'on profite du verset, ar-rad 'ala al-mushrikin alladhina yataqarrabuna ila al-makhluqin yatlubun minhum ash-shafa'a. Donc pareil, c'est une réplique aux polythéistes qui adorent les créatures en leur demandant l'intercession. Wa anna ash-shafa'ata milkun lillahi wahdahu la tutlabu illa minhu, comme dans le verset précédent, que la shafa'a c'est une possession d'Allah azza wa jall seul, et donc on ne la demande que d'Allah. وأن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين. Et que l'intercession, elle n'est utile à quelqu'un que si elle remplit deux conditions. الشرط الأول إذن الرب للشافعي أن يشفع. C'est la permission d'Allah à sa créature d'intercéder pour quelqu'un d'autre. Donc il n'y a personne, لا أحد يتقدم أمام الله ليشفع من عند نفسه. Donc personne ne vient auprès d'Allah intercéder de sa propre volonté, si ce n'est si Allah lui permet d'intercéder. Et quand vous regardez ça, même dans le hadith que vous avez déjà tous lu, sur l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement, si vous analysez bien ce hadith, qu'est-ce qu'il dit dedans le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, quand les gens, ils auront demandé au prophète Adam, Nuh, Moussa et Isa, Ibrahim d'intercéder, chacun il va renvoyer ça à celui d'après. Et quand ça arrive à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ana laha. Il dit c'est moi qui suis apte pour elle, pour l'intercession. Mais quand vous regardez dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il va se rapprocher d'Allah, il va se prosterner, est-ce que le prophète il prend la parole d'abord? Ou est-ce que d'abord il se prosterne et il loue Allah avec des louanges qu'Allah va lui révéler, qu'il ne connaissait pas avant, et Allah il va lui dire Ya Mohammed, irfa' ra'sak. Ô Mohamed, lève-toi. Washfa' tushafa'. Was'al tu'ta. C'est Allah qui va lui dire, intercède et on accordera ton intercession. Donc en vérité, c'est loin d'être un droit du prophète sur Allah, mais plutôt c'est un ordre d'Allah au prophète d'intercéder. Donc comment on va aller demander ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en plus il est mort, ou alors aux hommes pieux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même au jour du jugement, quand il aura droit à shafa'a, et il est vivant, il ne demande pas Shafa'a directement. C'est pas un droit qu'il a sur Allah. C'est Allah qui lui dit d'intercéder. Et de là, les ulama, ils disent, donc s'il en est ainsi, on pourrait se poser la question, alors à quoi ça sert Shafa'a? Puisque personne ne peut demander Shafa'a à Allah pour quelqu'un d'autre. C'est Allah qui leur ordonne de demander Shafa'a. Et qui leur donne la permission. Alors à quoi elle sert Shafa'a? Par exemple, vous connaissez aussi qu'il y a plusieurs Shafa'a. Il y a aussi Shafa'a des croyants pour les autres croyants qui sont en enfer, pour les faire sortir. Donc certains ils pourraient se poser la question quelle est la hikma de cette shafa'a, puisqu'Allah il pouvait sortir les gens de leur situation sans que personne n'intercède. Donc ils disent, les ulama, la hikma qu'il y a derrière, c'est pour montrer et pour honorer ces prophètes et ces gens pieux qui ont été humiliés et maltraités fi dunya. Eh ben, en ce jour où tout le monde témoigne, eh ben, ils auront la plus grande place. Parce que la place d'intercesseur, c'est une place d'honneur. Puisque tu intercèdes pour quelqu'un. Donc Allah répond à ta demande pour quelqu'un. Donc c'est une place d'honneur. Donc comme ces gens, ils ont été humiliés, ils ont été maltraités, on s'est moqué d'eux, on les a démentis, etc. Fit dunya. Eh bien au jour du jugement, Allah il leur donne la possibilité d'intercéder pour les élever, pour les honorer devant toute l'humanité. Pour les honorer. Ça c'est une des hikam, une des sagesses. Wa qawlihi ta'ala, قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وتمام الآيتين قوله تعالى وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Donc ici il a cité deux versets dans le kitab al-Tawhid. Donc je traduis à peu près où Allah dit invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah. Ensuite Allah il dit, il ne possède pas mithqala dharra, c'est-à-dire le poids d'une graine, il ne le possède pas, ni dans les cieux ni sur la terre. Ça c'est la première chose. Donc la première chose c'est quoi? Il ne possède pas. Wama lahum fihima min shirk. Et Allah n'a pas chez eux d'associés parmi eux. Ça c'est la deuxième chose. Wama lahum minhum min dhahir. Et il n'a pas parmi eux, dhahir ça veut dire une aide, quelqu'un qui l'assiste. Ça c'est la troisième chose. Et après dans le verset suivant il dit wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah.
Et l'intercession auprès de lui ne sert à personne, si ce n'est pour celui à qui il l'a autorisé. Donc Allah, il a renié des associés qui possèdent quoi que ce soit, qu'ils aient une association avec lui, qu'il les aide, et même qu'ils possèdent l'intercession. Donc ça, c'est le verset, le plus grand verset dans la nullité d'adorer autre qu'Allah, c'est ce verset-là, puisqu'il enlève à tout ce qui est en dehors d'Allah, tout ce qui pourrait nous amener à les adorer. Puisque celui que tu adores, tu espères quoi de lui? Qu'il maîtrise quelque chose pour qu'il puisse te donner, c'est-à-dire de l'ordre de l'univers pour qu'il puisse te donner, ou te protéger. Ou s'il possède pas, bah, qu'il soit un associé avec Allah. Ou qu'il soit un ministre d'Allah. Ou alors qu'au moins il puisse intercéder. Et tout ça, c'est annulé de ce qui est en dehors d'Allah. Donc, le résultat, c'est que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Donc ça, c'est une des façons de prouver le tawhid. Donc, Cheikh dit à propos de la signification du verset, يأمر الله سبحانه نبيه أن يقول للمشركين على وجه التحدي اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم فإنهم لا يقدرون على ذلك لأنهم لا يملكون من الكون وزن أصغر نملة ملكا مستقلا. Donc il dit ici, Allah il ordonne aux prophètes de dire donc aux associateurs comme un défi, comme une sorte de défi, de leur dire: demandez à vos divinités que vous prétendez adorer en dehors d'Allah et dont vous prétendez qu'elles vous servent et qu'elles enlèvent le mal et qu'elles vous protègent du mal. Il dit parce qu'en effet, elles ne possèdent rien de tout ça et elles ne possèdent pas ne serait-ce que le poids de la plus petite des fourmis. Mais ici, il dit bien, Cheikh Al-Fawzan, Mulkan Mustaqillan. Parce que quelqu'un maintenant, il va me dire, bah, moi je demande à quelqu'un qui me donne quelque chose, il me le donne. Donc toi tu me dis elle possède rien en dehors d'Allah, alors que moi-même je possède des choses. Ce qui est voulu par là, c'est mulkan mustaqillan. Ça veut dire c'est ce que les gens adorent en dehors d'Allah, ils considèrent qu'ils possèdent quelque chose, mais d'un mulk mustaqil, ça veut dire d'une possession indépendante de la possession d'Allah. Alors que cette possession dont tu me dis toi-même tu possèdes du sel, ou tu peux me donner du sel, ou tu peux me donner de l'argent, ou tu peux me donner quelque chose. Certes, c'est une possession, mais c'est une possession qui n'est pas indépendante de la possession d'Allah. C'est-à-dire, si demain on te vole cet argent que tu possèdes, est-ce que tu peux y faire quoi que ce soit? Si demain ta maison que tu possèdes, elle brûle, est-ce que tu peux y faire quoi que ce soit? Donc ça prouve bien que ta possession, c'est une possession, c'est pas une possession indépendante, c'est une possession qui rentre dans la possession d'Allah. Tu gères pas cette possession comme tu le veux. Puisque Allah t'a destiné quelque chose, et si Allah demain il veut te l'enlever, il te l'enlève. Et même le plus grand et le plus grand des riches, et le plus orgueilleux des riches, si demain il lui arrive quelque chose qui lui fait perdre sa fortune, est-ce qu'il pourra y faire quoi que ce soit? Il pourra rien y faire. Donc certes, Allah il a accordé la possession à ses créatures, mais c'est pas une possession indépendante. Ça, il faut bien différencier, parce que maintenant, un mouchrik qui va te dire, ben, chacun il possède. Donc moi je demande de Sidi Foulen parce que lui aussi il possède. Non, parce que Sidi Foulen, comme tu dis, il possède pas mulkan mustaqillan. Il ne possède rien de façon indépendante pour qu'il puisse te donner. Donc non seulement il est mort, mais ça c'est autre chose, parce qu'eux ils pensent que même les morts, etc. Mais toute personne ne possède que de façon, j'ai pas le mot, c'est-à-dire c'est pas une possession indépendante. C'est une possession qui est soumise à la possession d'Allah Azzawajal. C'est une possession, voilà, c'est une possession relative. Alors qu'Allah, il a la possession absolue. Al-mulk, al-mutlaq. Donc, il dit, ces associés que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent pas une fourmi d'une possession indépendante. S'ils avaient possédé le poids de quoi que ce soit d'une possession indépendante, alors on pourrait leur demander. Mais puisque toute la possession, elle appartient à Allah Azzawajal, et que ce que nous on n'en possède que par le destin d'Allah Azzawajal et par l'ordre d'Allah, donc personne ne mérite que tu lui demandes quoi que ce soit en l'adorant, puisque tout est possédé par Allah Azzawajal. Et ça revient aussi au fait de à l'importance de Tawhid al-Rububiyya. Faut pas que vous croyez quand vous lisez dans les livres Tawhid al-Rububiyya, il n'y a pas eu de divergence entre les prophètes et leur peuple sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet banal. Parce que celui qui croit réellement et qui croit bien à Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, il va le comprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'Allah, yulzimu al-mushrikin bi Tawhid al-Rububiyya. Allah, il argumente. Et les mushrikines des Arabes par Tawhid al-Rububiyya, puisqu'ils le connaissaient. Parce que celui qui le connaît, forcément, il doit appliquer Tawhid al-Uluhiyya.